bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale, une bande originale sans Nagui, mais avec Albert Angou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour Daniel.
En deuxième heure, Tanguy Pastureau sera là pour maltraiter l'info. Et bien entendu, à mes côtés, j'en suis ravi, Leïla Kadouzoubou, Nagui.
Bonjour à tous et nos invités dans la bande originale aujourd'hui sont Swann Harlow et Charles Berling.
Bravo.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Bravo. Charles Berling.
Bonjour.
Bonjour Swann Harlow, c'est Bonjour. La première fois à ce micro dans la bande originale. On est ravis de vous accueillir.
Moi aussi.
Oui, on vous avait adoré dans Petit Paysan qui vous a valu un César. Comment est-ce qu'on vit ça quelques jours après avoir la statuette à la maison, j'imagine ?
Non, elle est cachée, elle est au fond d'un carton.
Comment ça ?
Ah bah c'est beaucoup trop impressionnant de se lever tous les matins avec ça, donc il vaut mieux l'oublier.
C'est vrai ?
Ouais. Et vous avez mis le carton sur la table du salon ?
Sur la cheminée, oui, bah, oui, normal, oui, bien sûr.
Je regarde il a fait des cristaux avec son César, c'est bon. C'est
ça impressionne magnifique. À ce point-là, ça impressionne à ce point-là, même après l'avoir reçu, avoir réalisé, avoir reçu je ne sais pas combien de messages de félicitations, on a du mal encore à s'approprier cette récompense.
Non, on s'en sort très bien d'une récompense comme celle-là, mais oui, c'est un certain poids. Il faut toujours faire ce métier un peu comme un débutant.
Oui.
Donc
ça fait un an quand même, donc on pourrait se dire.
Oui, bah là d'ailleurs, il y a Alex Lutz qui a repris la relève, ouais. Donc je suis peinard, ça y est.
Ça y est, débarrassé.
Et vous lui en voulez un peu, Alex Lutz ?
De faire des films, ouais. Je comprends pas pourquoi les autres font des films. C'est très bizarre,
d'avoir
cette idée.
D'avoir pris le César. Ouais,
je suis là, les gars, je comprends pas, quoi.
En tout cas,
vraiment
justement,
n'importe quoi,
vous êtes là pour nous parler d'Exfiltré, un très bon film réalisé par Emmanuel Hamon. C'est son premier long métrage, on y reviendra au cours de cette émission. On va déjà passer par la traditionnelle séquence de cette émission, c'est-à-dire l'interro, pour voir si mes camarades autour de la table ont bien bossé leur dossier. Une question pour commencer qui concerne Swann Harlow. À l'école, on se moquait du prénom de Swann. Et la grosse blague, quelle était-elle d'après vous ?
De quel côté tu vas ?
Non.
C'est un jeu de mots avec Swann.
C'est un jeu de mots avec Swann.
Soigne ton rhume ou.
Pas loin, c'est ça.
Soigne ton
droit.
Soigne-toi bien.
On disait soigne-toi bien. Soigne-toi bien. Swann Harlow, vous en avez souffert ?
Lol.
Lol.
J'en ai souffert, mais aujourd'hui, je la trouve très drôle.
Ouais. Et c'est vrai que l'obstétricien qui a accouché votre mère s'appelait le docteur Proust.
C'est vrai.
C'est vrai, ça a été
c'est une logique, hein, implacable.
C'est marqué sur mon carnet de santé, accouché par les bons soins du docteur Proust.
C'est vrai, ça a été un élément déclencheur pour le choix du prénom ou pas ?
Non, il a été choisi avant.
Choisi avant, mais c'est un concours de circonstances.
Exactement,
qui fait que, voilà, il fallait absolument ce prénom, Swann, qui vous distingue au plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Swann.
Il y en a de plus en plus, mais oui, je l'aime bien ce prénom.
On poursuit avec vous, Charles Berling. À 7 ans, Charles a serré la main d'une personnalité historique.
De Gaulle.
Absolument.
Oui, bravo.
Bravo. Dans quelles circonstances, Charles Berling ?
J'étais à Tahiti, et puis il est venu à Tahiti. J'étais sur une place, et à un moment donné, je ne sais pas comment je me suis retrouvé, il y avait des gens, une foule, et puis la foule s'est écartée pour le laisser passer. Moi, je n'ai pas vu que les gens s'écartaient, puis je me suis retrouvé devant lui, et puis il était vraiment très grand.
Et il vous a serré la main, il vous a embrassé
Oui, il m'a serré la main.
Ce qui vous a félicité pour votre carrière.
Oui, absolument. Ouais. Il m'a dit, toi tu vas faire une carrière formidable.
Votre père était militaire
oui.
Dans ces circonstances.
Il était médecin dans la marine et donc il travaillait à Mururoa pour la bombe atomique, pour détruire bien copieusement les fonds marins.
La planète, ouais.
Des beaux projets, ça. Ah oui, qu'on a lâchement.
Il fallait que ça sorte.
Non, mais le pauvre, il y est pour rien. Mais c'est vrai que je pense pas que ça soit une page magnifique de la Défense française.
On va l'occulter. Swann, enfant, rêvait de devenir écrivain. Quels étaient, selon lui, les deux détails physiques qui caractérisaient un écrivain ?
Il fallait des lunettes ?
Non, mais c'est de cet ordre-là.
La mèche.
Non.
Il fallait une chemise blanche.
Non plus.
Est-ce que c'est un accessoire ou c'est physique, vraiment physique ?
Ça relève des deux, en fait. Il y a deux réponses à donner.
D'accord. Imaginez une écharpe.
Imaginez les représentations des auteurs du 19e, par exemple.
Il fallait fumer la pipe.
Oui, il fallait une pipe. Voilà, oui, absolument. Premier bon point pour
toi, Alexis.
Il avait
la tuberculose.
Non.
La syphilis.
Il fallait être petit.
Mais il y en a beaucoup qui l'ont eu, donc.
Non plus, c'est physique, là, c'est un attribut physique.
Une moustache.
Une moustache, voilà, bravo.
Une pipe et une moustache.
exactement.
Voilà, la moustache et la pipe. Mais d'où ça vient, ça?
Je ne sais pas, oui, c'était...
Dans certains
milieux. Je pensais que pour être écrivain, il fallait, fallait une moustache et fumer la pipe. J'étais un peu emmerdé, je n'étais pas sûr d'avoir envie de fumer la pipe. Mais,
et les poils aussi.
Et la moustache, j'ai mis d'ailleurs une petite quarantaine d'années avant de réussir à avoir une moustache.
Voilà,
donc du coup, j'ai laissé tomber.
J'ai totalement imberbe, ce garçon.
Avec un peu de guano, ça peut aider.
Quoi, voilà.
L'archétype de l'auteur. Est-ce que vous écrivez aujourd'hui?
Oui, j'écris dans mon coin.
Ouais. De quelle nature? Plutôt de la fiction?
Aujourd'hui, oui, j'essaie d'écrire des scénarios. J'ai toujours écrit depuis que je suis gamin. C'est passé par différentes manières d'écrire, mais j'ai toujours écrit.
Vous aussi, Charles?
Ah oui. Mm-hmm. Moi aussi, oui, tout à fait.
Mais de quel ordre, justement? Bon, on connaît, vous avez fait paraître... des textes, mais l'écriture intime...
Des livres,
intime.
Même, vous oui, pouvez dire.
Des livres. Ça s'appelle un livre.
Le dernier s'appelle Un homme sans identité. Je vous conseille
d'aller l'acheter. Ils ont été
reliés, même. Oui, tout à fait.
Et est-ce que vous écrivez pour vous, au quotidien, ou c'est vraiment pour...
J'écris...
pour faire paraître.
Pas forcément tous les jours, mais j'écris quand même pas mal, ouais.
Les listes de courses.
Comment?
Les listes de courses, par exemple.
Il écrit de très belles listes de courses. Non, d'ailleurs, il y a un petit recueil qui va sortir bientôt. Les listes de Carlito, et ça va être incroyable.
Les listes de Carlito, on saura tout.
On va faire un film, il paraît.
On saura tout. Une question justement sur Charles Berling alias Carlito. Quelle saga au cinéma l'a considérablement emmerdé?
Au cinéma, Le Parrain.
Non.
Très connu. C'est surprenant que ça l'ait emmerdé.
Surprenant, je sais pas, parce qu'on est, il y a pas mal de gens qui partagent un peu cet avis, mais ça va étonner surtout Fred.
Oh là, ça va être
Star Wars.
Alors là,
Star Wars.
Est-ce qu'il faut que je parte? Je suis d'accord.
C'est Star Wars.
Vous voulez que je parte en
fait? Alors explication entre deux hommes. Je vous laisse, je vous laisse faire, Charles.
De
vous avez
quoi?
Déclaré
le tapis Rocky.
Star Wars.
Je suis désolé. À chaque fois que j'ai vu Star Wars, le dernier là, je me suis dit, je vais y aller parce que. Je sais pas, il y a quelque chose que je dois pas comprendre. Il y a tellement de gens qui aiment ça. Et moi, je m'ennuie à mourir. Je trouve ces scénarios complètement insipides. Je trouve ça débile, quoi. Et puis, alors, au bout d'un moment, les fusées, les machins, les effets spéciaux, j'en ai rien à foutre.
Voilà, ça c'est
mais
fait.
Rien. Alors, je sais que c'est pas bien. Il paraît que c'est pas bien de dire ça.
Mais moi, je dis, il a tout à fait raison. C'est son droit, c'est sa parole. Il faut la respecter. Et moi,
vous êtes en majorité en plus.
Hein. Mais oui, oui. Il y a des moments de Cravate Club que j'ai pas aimé non plus.
Il y a des moments
de Cravate Club que j'ai pas aimé non plus. Et voilà, c'est comme ça.
Non, mais complètement. Mais Cravate Club, on en a pas fait 10.
Ça, c'est vrai. C'est pas une saga.
Et c'est pas fini.
C'est surtout une industrie, quoi. Enfin, donc, mais moi, j'aime pas du tout ces films. Mais c'est ennuyeux, quoi. Pour moi, je m'emmerde. Mais alors, à un point.
Bon, maintenant,
et après, les gens, ils osent dire qu'ils vont voir du Tchekhov, qu'ils vont voir du Shakespeare et qu'ils s'ennuient. Mais enfin, c'est incroyable.
Vous, Swan Harlow, Star Wars, c'est votre truc?
Bah, les trois premiers qui sont sortis il y a très longtemps, quand j'étais gamin, moi, je regardais ça. Après, c'est vrai que ceux qui sont sortis plus récemment, j'y ai pas retrouvé ce qui m'avait fait rêver gamin, c'est sûr.
Alors justement, vous, en matière de cinéma, il y a un film que vous avez vu au moins 25 fois. Sauriez-vous deviner lequel?
Les Bronzés?
Non.
Rabbi Jacob.
Le gendarme de Saint-Tropez.
Est-ce que c'est un film comique?
C'est avec un grand comédien français.
Avec Fernandel?
Non. Non.
Mort?
Non, il est vivant. Et bien vivant.
Ça doit être avec moi. Alors.
Avec Depardieu.
Les valseuses.
C'est avec Depardieu. C'est avec
Depardieu.
Les valseuses.
Non, c'est pas les valseuses.
Ça, c'est sous le soleil de Satan.
Non plus.
Pas tenue de soirée.
Non plus.
Tenue de jour.
C'est pas le plus connu.
Est-ce que c'est un film humoristique
pour toi? Tu veux pas me souffler?
C'est une comédie?
Ulysse.
Non.
Ah, il joue avec une vieille dame là. C'est ça, non?
Elle était jeune.
Miss Daisy.
Elle était jeune.
Miss Daisy et son chauffeur.
J'adore ce truc.
Ah, c'est Trop belle pour toi.
Non, pas Trop belle pour
c'est
toi.
Oublié, non
qu'est-ce
c'est
que oublié. Je peux vous dire? C'est avec Depardieu.
C'est de qui?
C'est Piala.
C'est Piala.
Ah, c'est Piala.
Sous le soleil de Satan?
Non. Bah,
je l'ai dit.
Non.
Ça vient d'être dit.
Bon, hein, vous
Loulou.
Bravo. Loulou. Sur le fil, Daniel. Loulou. Expliquez-nous cette fascination pour Loulou.
J'aimerais quand même qu'on reparle de Star Wars.
Swan Harlow.
Non, mais en fait, moi, quand j'étais ado, j'avais accès au grenier où il y avait une vidéothèque absolument démente. Donc j'ai regardé plein de films dans cette bibliothèque. Et puis à un moment, j'ai commencé à regarder les Piala. Et il y avait quelque chose dans Loulou de la vérité, en tout cas, de cette question de savoir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est improvisé, où ça se passe, la fiction. Voilà, j'étais fasciné. Fasciné par les deux, et puis je sais pas, ce film m'a beaucoup touché, donc c'était mon film préféré, comme on dit, même ouais. si ça veut rien dire. Il y en a d'autres. Mais
au point quoi de déconstruire la façon de réaliser, d'observer les plans.
Ah d'être... Non, pas du tout. Non, j'ai toujours été assez mauvais pour ça.
Ouais.
Non, mais ça, je me suis rendu compte de ça plus tard. Mais en fait, les films que j'aimais, je crois que je les aimais surtout à travers les acteurs. Mm-hmm. J'ai toujours été incapable de me dire ah oui, alors il a découpé comme ça, il a fait tel plan. Moi, j'étais vraiment avec les acteurs.
Et c'est un regard que vous avez maintenant quand vous regardez un film, à savoir techniquement, voir comment il a été conçu, comment où c'est encore être emporté par l'interprétation.
Mais je suis quand même un vrai spectateur, c'est-à-dire ouais. assez passif, quoi. Quand même, je prends ce qu'on me donne sans le décortiquer. Après, inévitablement, à force de travailler, on vous dit alors là, il y a le Carloge qui est juste à gauche, voilà. On se doute bien. Parfois, on se pose des questions de comment ils ont fait, mais. Non, quand même, je reste assez...
Spectateur.
Spectateur. Profiter, ouais. Ouais.
Il y a la beauté, j'allais dire, picturale aussi d'un film, vous y êtes sensible.
Bien sûr.
Parce que sans décortiquer un film, il y a des films bons parce qu'ils sont simplement beaux, et il y a tout un travail derrière qu'on ne sent pas. Puis il y a d'autres films qui sont médiocres parce que c'est du roman photo.
Bien sûr.
Ils sont innombrables.
Oui, je crois qu'on va en recevoir aussi. C'est
ok, très bien. Revenons à l'actualité de nos invités, à savoir Exfiltrer, ce film d'Emmanuel Hamon qui sera en salle le 6 mars.
Mercredi prochain.
Mercredi prochain, absolument, avec vous, Swann Arlo, Charles Berling, mais également Finnegan Oldfield, Jiska Calvadan.
Calvanda.
J'ai des problèmes d'inversion de syllabes.
De bouche.
De bouche aussi, parfois. C'est des choses qui arrivent.
Et un léger strabisme.
Mais alors, oui, ça, c'est Laurent Deutsch. Ok, on va faire tout le dossier, c'est bon, ouais. On est bon. Cette histoire qui est inspirée de faits réels, fin 2015, une jeune femme part avec son enfant. Elle fait croire dans un premier temps à son époux que vous incarnez, Swann Arlo, qu'elle va rejoindre une amie dans une mission à Istanbul, qu'elle ne sait pas ensuite à quoi va correspondre le périple. Et on se rencontre très rapidement avec un véritable jeu dans ce film de changement de lieu. On commence à Paris, on part à Istanbul, ensuite on se retrouve à Raqqa, puisque justement le chemin la conduit là-bas où elle pense aller faire du bien et elle se retrouve au sein de Daesh, tout simplement. C'est une histoire qui est très très forte, qui est d'actualité, où on voit vraiment tout le processus, non pas de radicalisation d'un individu, parce que la question va se poser dans ce film, mais en revanche de comment faire quand on a commis une telle bêtise pour essayer de revenir sur le territoire français. Charles Berling.
Oui, et puis surtout, on voit qu'au fond, tout est lié, n'est-ce pas ?
Ouais.
C'est-à-dire que cette jeune femme, les gars qui sont partis à Raqqa, elle les a connus avant, donc elle arrive... Donc le film décrit extrêmement bien cette réalité et je pense que ce sont des films totalement nécessaires. D'abord, mmh. il est palpitant, il est vraiment passionnant, mais parce que c'est toujours mieux de comprendre, de regarder la réalité en face pour ne pas laisser les fantasmes et la peur mmh. s'installer de façon comme ça, très assez flou. Et là, ça raconte bien comment cette fille de banlieue parisienne va retrouver...
Assistante sociale,
va retrouver des jeunes gens...
De son immeuble,
et
presque.
De son immeuble. Ouais. Et après, ce que j'ai beaucoup, moi, aimé dans le scénario et ensuite dans le film qu'a réalisé Emmanuel, c'est la façon, au fond, dans tous ses destins, dans le film... Se croisent. Moi, je joue un médecin qui va agir parce que son fils se trouve être parti des années plus tôt en Syrie dans une ONG et qui, lui, a priori, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec Daesh, avec même la Syrie, avec et à sa vie parisienne quelque part. Et puis tout d'un coup, tout le monde va se retrouver pris par ce drame épouvantable.
Des destins qui se croisent, puisque Swann Arlo vous incarnez donc.
Oui, on travaille ensemble.
Voilà,
à l'hôpital.
L'époux de cette femme, mais vous êtes infirmier auprès de ce chirurgien. Et quand vous annoncez la nouvelle, ça fait vraiment l'effet d'un choc, d'un véritable séisme, parce que tout le monde se dit mon Dieu, ça y est, c'est foutu. On apprend dans le film que les femmes qui partent en Syrie ne reviennent quasiment jamais.
Non, aucune.
Voilà, donc les espoirs sont quand même assez minces. Swann Arlo, comment est-ce que vous avez préparé ce rôle ? Est-ce que vous avez rencontré, je ne sais pas, un époux, des membres de famille qui ont vu une sœur, une femme partir en Syrie. Comment est-ce qu'on aborde ça?
Non, non, moi j'ai rencontré personne et en fait, finalement, la seule chose qui a joué, c'est d'abord quelqu'un dont la femme est partie, mais c'est surtout quelqu'un qui veut récupérer son enfant, oui. Parce qu'après son histoire d'amour c'est presque secondaire, mais là il y a un enfant de 5 ans qui est là-bas, qu'a priori on va former, attirer à la Kalachnikov, donc ça il y a pas grand chose à faire pour le préparer, oui. Hein. Moi déjà à la lecture du scénario j'avais envie de pleurer dès qu'il était question du môme, donc voilà.
En plus vous êtes récemment papa, je crois que ça a aussi dû être un...
Bah, en tout cas oui, quand on connaît ce lien indéfectible qui nous lie à un enfant, oui. Voilà, il suffit de pas grand chose pour se projeter dans cette histoire. Après le personnage tel qu'il était dans l'histoire vraie et dans les premières versions de scénario, il y avait quelque chose de l'ordre de la passivité, mmh. qui était pour moi un peu compliqué. On en a discuté avec Emmanuel Hamon à dire... moi, j'ai eu un réflexe de mec qui regardait trop de films américains, genre, mais pourquoi il va pas là-bas ?
Ouais.
Il dit, bah, vraiment, là, t'es sûr, tu vas là-bas ? Donc, évidemment, ça paraît compliqué de faire le super-héros et dire, je vais les chercher moi-même, ou en tout cas, c'est se mettre en danger, certainement un peu idiot. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Pas grand-chose. On a juste voilà, discuté de ça et finalement, ils ont rajouté un peu des choses au scénario où vers la fin, c'est sur des petites choses, oui. Mais où on sent qu'il est volontaire et il est prêt à se mettre en danger, ouais. Intervenir autant qu'il peut. Quoi.
Quand on est le compagnon aussi, comment on voit ? Quelle histoire vous vous êtes racontée pour se dire que vous avez juste... pas vu ce chemin qu'il a mené jusqu'en Syrie. Est-ce que ça a été un travail avec le réalisateur ?
Non.
Non, mais je
suis désolé.
Non,
j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai vraiment pas travaillé
pour essayer de comprendre, parce que dans tous les articles de presse qu'on peut lire sur ces histoires de famille, et il y en a
c'était
beaucoup.
C'est pas ça qui était écrit.
Il y en a beaucoup des articles qui racontent vraiment la sidération, l'incompréhension totale des parents qui n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Et là, c'est vraiment le cas. Votre position complètement passive au départ, elle résulte de ça, vraiment. De cette incompréhension. Parce que ça vient aussi casser plein de clichés, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est que cette femme qui part avec son fils de 5 ans est assistante sociale, donc on peut imaginer qu'elle est plutôt renseignée, ouverte au fait de l'actualité et des dangers que peut préparer la Syrie, qu'elle s'est convertie il y a à peu près un an et demi.
Sidération, c'est sidération, le mot, je pense que c'est des situations qui laissent vraiment en sidération et d'ailleurs, même pendant le tournage, on a eu la chance de rencontrer certains protagonistes de l'affaire.
Qui avez-vous rencontré ?
Je le dirai pas, mais des protagonistes qui racontaient la réalité. Et le film est très proche de cette réalité. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que et le cinéma et l'art en général est fait pour ça, c'est-à-dire les idées reçues sont balayées par ce film. Et il faut aller le voir pour ça, parce qu'on se rend compte que ce qu'on imagine n'a rien à voir avec cette réalité. Oui. Et que cette réalité est beaucoup plus prosaïque, et très proche de nous. Mm-hmm. Très proche de nous, vous le dites, c'est-à-dire c'est une assistante sociale. C'est juste une môme,
une mère aimante
ouais. qui à un moment donné est un peu idéaliste et se dit « je vais aller faire du bien
ouais, ». Je vais aider.
Et qui n'a pas ressenti ça au fond de lui-même ? Moi-même, quand j'avais 13 ans, j'étais enfant de cœur, vous savez. J'ai essayé.
Pour faire du
j'ai essayé certaines choses.
Pour faire de l'humanité.
Mais non, mais c'est vrai. On a
ce
tous à un moment donné dans notre vie.
Un parallèle, je ne sais pas, Charles Berling.
Si,
c'est de l'idéalisme.
En ce moment.
Ouais.
On ne peut pas parler du prochain film de Swan Arlo.
On en a parlé grâce à Dieu, François ouais. Ozon.
Mais quand même, si, ça a un petit rapport.
Il y a un petit rapport.
L'exaltation, ouais. L'idéalisme, ouais. Le fanatisme.
Oui, parce que c'est vraiment ce qui l'a conduit là-bas.
Mais justement, à des dérives absolument terribles et qui sont totalement à l'opposé. Du projet initial. Et à un moment donné, elle va voir la réalité à Raqqa. Elle va voir ces mecs qu'elle a connus qui avaient 13-14 ans et
menti.
Qui maintenant en ont 23
ans. Qui lui ont menti, parce que c'est ça. Ben, en
qui
fait,
lui ont
c'est...
menti et qui sont quand même des hommes aussi, il faut bien le dire, qui manipulent des femmes. Ouais. Et ça, c'est pas nouveau. Hein.
Et on voit bien
il
n'y
a pas que là non plus, hein,
oui,
il faut le dire. Hein.
Arlo.
En fait, ce qu'il y a en toile de fond comme sujet du film, c'est... une espèce de cartographie de la jeunesse. Donc on a à la fois une jeunesse syrienne, activiste, qui se bat pour son pays. On a à la fois un jeune français qui est parti à Gaziantep bosser dans une ONG qui a envie de, voilà, de faire de l'humanitaire d'une manière ou d'une autre. Et on a aussi cette jeune femme qui, et c'est pas développé, c'est pas le sujet, mais Alors peut-être qu'il y a aussi un mouvement de vouloir aider, mais c'est pas seulement ça. Je pense que le départ, il est aussi motivé certainement par quelqu'un qui a eu du mal à trouver sa place en France, à qui on a laissé peut-être peu de chance. Donc c'est aussi, est-ce qu'il y a un endroit où je peux être utile à
où
quelque chose
quelque
et donc
part, ouais.
C'est un regard un peu naïf, mais il y a une forme d'utopie. Mmh. Et donc c'est à travers ces trois jeunes gens, en fait, on voit une jeunesse aujourd'hui dans le monde. Et on voit comme d'ailleurs, c'est là aussi que les questions d'engagement sont fortes. Et c'est surtout, enfin, on le voit à toutes les époques. C'est l'engagement est fort dans la jeunesse, par la jeunesse. Et là, voilà, en effet, on a les institutions, les gens de pouvoir, etc., qui ne veulent pas ou n'ont pas le pouvoir de faire bouger les choses. Enfin, surtout, ils n'ont aucun intérêt à faire rentrer ces gens-là.
Ouais.
Et finalement, c'est une opération qui va être montée par deux mômes. Et on se rend compte aussi que en fait un jeune Français, un jeune Syrien qui d'un coup vont monter ça ensemble,
que...
on se rend compte en fait de la proximité, c'est-à-dire s'éloigner de tous ces fantasmes qu'on a de toutes ces visions simplistes en fait.
Et de ce point de vue-là, le film est très réussi parce que ça nous permet d'avoir en effet, au-delà de cette cartographie de cette jeunesse, on va revenir sur le rôle de Finnegan Oldfield et de ce jeune activiste syrien aussi, parce que en effet c'est eux qui vont être moteurs de cette opération d'exfiltration. On a aussi une réalité, en effet, des gens qui ne trouvent peut-être pas leur place, qui cherchent à être utiles, à s'engager, et ça les conduit là où on sait.
Oui, il y a des jeunes gens, mais il y a aussi des hommes mûrs dans le
alors
le
on va
film.
Y revenir aux hommes mûrs, mais justement... En matière de maturité, ça tombe bien, parce qu'on a quand même...
Il y a aussi l'engagement des seniors. Maréchal, bonjour. Vous savez pourquoi les exfiltrer? Ça va être un succès colossal.
Morin, où est Nagui? Je veux savoir où est Nagui.
Il est en vacances, Maréchal, en
vous,
vacances.
Vous mentez, vous mentez.
Mais non.
Morin, qu'est-ce que vous avez fait de Nagui?
Alors, je vais être très précis, il est entre les Maldives et l'île Maurice. Un truc comme ça.
On a retrouvé son corps?
Mais non, il n'est pas mort.
Bah, vous l'avez buté?
Non, il est sur son yacht.
Bah, enfin, alors, il a été enlevé.
Mais non.
Et donc, il faut l'exfiltrer comme Faustine dans le film.
Je vous demandais si vous saviez pourquoi Exfiltrer va être un succès.
Bah, c'est simple, Morin. Oui. Exfiltrer, ça va marcher parce que c'est l'histoire de gars qui en ont dans le froc. Particulièrement Arlo Swan, bonjour monsieur, alias alors Sylvain, et Berling Charles, alias Patrice. Bon, compliment, messieurs. Et je peux vous dire, taisez-vous, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'avais pas vu un film où, pour une fois, il ne s'agit pas de bobos qui n'en finissent pas de déblatérer sur leurs amourettes dérisoires, leur boulot grotesque, en barbotant des pieds dans une piscine d'une villa de Cap Ferret, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'exfiltrer, ça, c'est du cinoche, avec des types prêts à aller jusqu'au bout de leur mission, en terre ennemie, au mépris du danger.
Je vous sens ému, Maréchal.
Affirmatif, moi. Moi aussi, j'ai exfiltré une femme.
Mon Dieu.
La mienne. En l'occurrence... Ne riez pas, monsieur Berling. En l'occurrence, Edmond, mon épouse qui me manque tant.
Je comprends.
C'était en 1954.
Non, c'est
au Tonkin.
Enchaînez, s'il vous plaît.
Par une nuit sans lune, Edmond, qui était devenu coco, sans me le dire, a rejoint les Viet Cong. Mais elle a vite déchanté, elle aussi, quand, claquemurée dans la maison de plaisir de Madame Suzy Wan, elle est devenue l'esclave sexuelle du cruel général Bobune, surnommé aussi le général Bambou, vu qu'il l'avait tout le temps. Alors, je n'ai pas le temps...
Sérieux ?
Respectez la mémoire d'Edmond. Je n'ai pas le temps de vous rapporter comment j'ai réussi à exfiltrer Edmond. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en nous enfuyant, en m'asseyant sur la banquette piégée d'un pouce-pouce, un pouce-pouce viette, j'y ai laissé le mien de pouce-pouce. Et avec Edmond... Avec Edmond, nous étions vraiment en fuite, et depuis, je le suis resté aussi, en fuite. Et mon fondement est resté en charpie.
Okay.
Alors, et depuis, je ne peux rester assis plus de 3 minutes.
Ah ben, ça fait 3 minutes, dommage. Voilà, ça fait 3 minutes du poil qui viennent de s'écouler.
Dernière question, Morin. Oui. Il est où, Nagui?
Mais il n'est pas là, Nagui. Il est en vacances. Merci, Maréchal.
France Inter.
La bande originale. Voilà pour la maturité et l'engagement des seniors donc dans la bande originale.
Mais le thème est respecté, l'exfiltration.
Votre personnage, Charles Berling, en effet, c'est cette maturité. Vous incarnez un peu avec ce chirurgien, cet homme parisien qui a des connexions un petit peu partout, d'ailleurs qui propose très rapidement d'utiliser ses connaissances pour essayer de dénouer cette situation, mais qui incarne aussi finalement un ancien monde qui comprend pas vraiment comment les choses... c'est pas péjoratif à l'ancien monde. Comment les choses fonctionnent, on le sent un peu dépassé, même si de bonne volonté, mais dépassé quand même.
Oui, je me suis totalement identifié à ce rôle. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, mais non, non,
ça se voit aussi dans la compréhension avec Finnegan Oldfield.
Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un grand chirurgien et que au fond, il y a un sentiment à un moment donné dans cette bourgeoisie de se dire, après tout, c'est possible.
Si on veut, on peut.
On peut. Ouais, ouais. Et puis si on a un petit peu d'entre-gens, on peut. Eh bien non, pas du tout en fait. Le gars, finalement, au fur et à mesure, il va s'apercevoir qu'il va, être obligé de... Et c'est ça qui fait qu'avec je joue le père de Finnegan Oldfield. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il va... Il va faire appel à ce fils qui était parti en Syrie des années plus tôt et avec qui il a peu de rapports. Et puis, il va redécouvrir son fils parce que cette génération, justement, eh bien, s'est mise à fonctionner autrement.
Oui, parce qu'il ne comprend pas bien ce qu'il fait là-bas. Il ne comprend pas bien la nature de son intervention en Syrie. Il y a une sorte de décalage qui s'est instauré entre le père et le fils. Et pourtant, comme l'a dit Swann Harlow tout à l'heure, c'est justement cette nouvelle génération qui connaît le terrain,
qui a les clés.
Qui a les clés de compréhension aussi, parce que...
contrairement à l'ancienne, ne se dit pas « l'État peut tout faire ». Oui. C'est fini, ça.
Et surtout qu'il y a une vraie compréhension du terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... La problématique syrienne, c'est aussi pas simplement dire qu'il y a les gentils et les méchants, qu'il y a Bachar al-Assad, qu'il y a Daesh, mais il y a aussi la SL, il y a plein de forces en présence qui peuvent changer un petit peu leur fusil d'épaule en fonction des déclarations de la communauté internationale, qui vont se rallier aux uns ou plutôt aux autres. Donc on le voit dans le film, il a une connaissance, par exemple, de tous les noms des grands chefs de Daesh selon le territoire. Et on la lui fait pas.
C'est ça, c'est vrai que c'est passionnant dans le rôle de Finnegan, c'est-à-dire comment un jeune Français qui se retrouve en Syrie avant 2011, avant que n'éclate cette guerre, a beaucoup de relations avec des Syriens, va les voir et va assister à ce désastre syrien auquel on assiste déjà depuis maintenant de nombreuses années, n'est-ce pas, et qui va perdre des amis, qui va avoir son au fond son réseau syrien se modifier, devenir parfois les uns et les autres
glisser,
des ennemis, glisser dans cette horreur. Et c'est très bien raconté, et c'est vrai que c'est passionnant de comprendre comment la Syrie s'est démembrée au fur et à mesure, et que ce jeune Français va assister à ça.
Mais il connaît complètement le terrain et
il parle
l'arabe.
C'est ce qui lui donne. C'est-à-dire qu'il s'est complètement acclimaté parce que il est resté, il est là depuis 7 ou 8 ans. Hein, c'est-à-dire parce que au fond, il n'aurait pas dû rester, mais vu les circonstances, eh bien, il a été entraîné, disons, lui par défaut. Enfin, il a été entraîné dans le conflit.
Exfiltré, ce très beau film qui sera en salle le 6 mars avec cette histoire racontée de façon chorale, cette mosaïque de personnages qui nous permet de mieux comprendre la complexité d'un tel sujet.
Nous, on l'a exfiltré, mais je sais pas d'où. C'est Alexis Le Rossignol. Alexis, selon vous, le problème du réchauffement climatique est un problème d'échelle.
Oui, Nagui. Enfin, oui, Daniel. Il n'y a pas un jour sans son lot de mauvaises nouvelles concernant la planète. Mm-hmm. Un coup, c'est la fonte des glaciers. Un coup, c'est des morceaux de banquise qui se détachent en Antarctique. Un coup, c'est des baleines qui s'échouent sur une plage. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on a du mal à percevoir réellement la gravité du phénomène. Parce qu'objectivement, on vit encore pas si mal. Les abeilles disparaissent, mais il y a toujours du miel dans les supermarchés. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on ressent pas vraiment les effets immédiats de la destruction de la planète, contrairement au froid qui déclenche des épidémies de grippe ou aux premiers jours de floraison qui provoquent les rhumes des foins. On sait que le niveau de la mer monte, mais ça va, c'est tranquille, on n'a pas les pieds trempés le matin. Et pour peu qu'on aille à la plage à marée basse, faut toujours marcher 50 mètres de plus qu'à marée haute pour avoir les pieds dans l'eau. Donc l'eau monte, oui, mais pas assez vite pour qu'on panique. Et c'est ça le problème. On sait aussi qu'en Amazonie, un terrain de foot disparaît toutes les 7 secondes. Un terrain de foot toutes les 7 secondes, c'est fou. Mais pourtant, les Brésiliens sont toujours aussi bons au foot. Donc on ne prend pas conscience du phénomène. Parce que la Terre nous envoie des signaux contradictoires, en fait. Pourtant, à ce rythme-là, dans 30 ans, la forêt amazonienne, ce sera Fontainebleau sans son château. Voyez. Si 10 ponts de Lugones s'y cachent, ils vont pas tarder à tomber dessus. Dans le même registre, quand une espèce disparaît, on n'est pas affecté dans notre quotidien, on est juste ému. Le grand rhinocéros blanc, c'est triste, mais objectivement, il n'était pas d'une grande utilité. On n'a jamais lu dans les journaux un rhinocéros blanc vient en aide à une petite fille égarée. Tu vois,
c'est vrai, c'est vrai.
Les orangs-outans, pareil, on dit qu'ils sont intelligents, mais depuis des décennies, on anéantit leur forêt pour faire de la pâte à tartiner, et ça leur est jamais venu à l'esprit d'écrire « Stop killing us » sur des feuilles de bananier. Tu vois. En français, ça fait arrêter de nous tuer. Mais les orangs-outans, ils parlent anglais. Alors que moi qui suis un humain, donc une personne a priori supérieure à ces pauvres animaux qui font rien pour se sauver. Quand les gars qui ont fait le ravalement de la façade de mon immeuble ont garé leur bétonnière sous mes fenêtres, je suis sorti direct pour leur dire ce que j'en pensais. Et j'ai gueulé, parce qu'il faut pas se laisser bouffer. Bon, ils étaient trois et je suis pas très courageux, donc j'ai gueulé dans ma tête. Mais j'ai eu raison. Depuis que le chantier est fini, la bétonnière elle est plus là. Faut se faire respecter, messieurs dames. Je vais peut-être choquer les auditeurs, mais d'une certaine manière, la Terre, elle n'est pas exempte de tout reproche dans ce qui lui arrive. Parce qu'elle encaisse trop bien ce qu'on lui fait subir. La Terre, elle a la mentalité des Tibétains en exil, si vous voulez. Elle pardonne et elle compatit. Et ça la dessert. Parce que les puissants qui dominent l'économie et qui auraient le pouvoir de changer les choses, ils profitent de son côté zen et feng shui, là. Et nous, tant qu'on continue à dénoncer tout ça en buvant des cafés dans des gobelets en plastique, bah non seulement on est aussi responsable, mais en plus on est hypocrite. Donc moi, je dis à la Terre... Laisse la mer monter, qu'il fasse 15 degrés de plus en hiver, qu'on puisse allumer des barbecues fin janvier et manger de la bidoche pendant encore 20 ou 30 ans et après on te laissera tranquille avec les animaux et les végétaux qui auront survécu. Quant à moi, c'est la première et la dernière fois que j'écris sur le réchauffement climatique. Parce que c'est chiant en fait. On finit toujours sur des trucs larmoyants ou des pseudo-morales à la con qui plombent l'ambiance alors qu'en réalité on n'a qu'une vie. Et comme le dit le célèbre dicton africain, celui qui guette l'approche de l'orage ne profite pas du parfum des roses. Cherchez pas, monsieur. Oui. Ça veut rien dire. Allez, bonne journée à tous.
Merci, Alexis Laurent Seydian.
La bande originale. Sur France Inter.
Exfiltré, ce premier long métrage d'Emmanuel Hamon en salle le 6 mars avec nos invités Swann Arlo et Charles Berling. Swann Arlo, dans le film, on voit que votre personnage cherche, sur conseil aussi du personnage de Charles Berling, à maintenir le contact. Ça, c'est aussi des informations qu'on vous a racontées sur les procédures à suivre pour ne pas couper le lien.
Ça, en fait, c'est un conseil qu'on lui donne. C'est en effet le personnage de Charles qui donne un petit fascicule. Et en effet, c'est ce qui est conseillé dans ces cas-là. C'est-à-dire surtout garder le lien, ne braquez pas l'autre. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus du tout de communication possible, évidemment, tout devient plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que quand elle l'appelle, il fait comme s'il ne savait pas vraiment. Et, ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui va pas lui permettre à elle, au moment où elle comprend qu'en fait, il faut absolument qu'elle rentre, d'appeler à l'aide tout de suite. Quoi, parce que,
les ponts ne sont pas coupés.
Parce
que lui
n'a pas tout coupé, en effet.
Parce qu'il y a aussi ce désir à la fois d'avoir des nouvelles de votre enfant, du petit Noah, 5 ans. Mais aussi, on sent votre personnage quand même travailler par une sorte de besoin de comprendre. Parce que c'est quand même la femme qu'il aime, avec qui il a décidé de faire un enfant. Donc, ce n'est pas rien. D'ailleurs, c'est le reproche que fait Charles Berling à un moment. C'est se dire, est-ce que si elle revient, t'envisages de te remettre avec elle?
Alors moi, je n'ai jamais vécu cette situation-là réellement, donc je ne saurais pas dire, mais en effet...
Qu'est-ce que vous vous racontez?
Il y a des gens avec qui on partage notre vie, avec qui on partage parfois des décennies entières, et puis un jour... Mais il y a d'autres sujets, hein. Des gens qui disparaissent, qui abandonnent leur famille, et d'un coup, on se retrouve face à des inconnus. Et ça, dans plein de cas différents, donc... En effet, c'est quelque chose où on se dit, tiens, est-ce que je la connais vraiment? Est-ce que, à un moment en plus, il y a éventuellement la question qui se pose de savoir si elle est en train de faussement vouloir rentrer, parce qu'en fait...
Parce que c'est un piège lancé
voilà,
par
Daesh. Il y en a qui font ça et qui font des pièges, en fait, pour pouvoir attraper les opposants sur place et tout ça. Donc, oui, je pense que cette question-là, inévitablement, se pose. C'est à qui j'ai affaire. Oui. J'ai un enfant avec elle, je l'ai connu.
Mais le personnage se pose la question dans le film même. Ouais. Il y a un moment où j'ai envie de la prendre dans mes bras et un autre où j'ai envie de l'étrangler, je crois que c'est ce qu'il dit dans
mais
le film. Il sait pas où se
le film commence quand même par une très belle scène à l'aéroport quand elle va partir et où on sent un couple...
Ah bah...
C'est-à-dire, évidemment, on voit que c'est un couple qui est en difficulté à ce moment-là. Il le raconte pas, Emmanuel, dans... Mais on voit que le moment du départ, c'est un couple qui a passé une année un peu difficile. Et après, on va comprendre, au fond. Et donc, au fond, c'est aussi une sorte de... cette vérité, cette terrible vérité va aller...
Après, dans la réalité, je sais même plus ce qui s'est passé, mais je crois
c'est
que...
Le couple s'est remis ensemble,
voilà.
Ou pas, ouais.
Ils ont fait un enfant. Donc, ils se sont remis ensemble.
Ils ont refait un enfant.
Oui, parce que quelque part, comme histoire de couple, c'est très fort, c'est très beau, c'est très cornélien, c'est évidemment, c'est compliqué, mais et c'est vrai, comme vous le disiez, dans ce film, on voit que d'un côté comme de l'autre, enfin, qu'il y a dans l'histoire, c'est très difficile de faire confiance à quoi que ce soit. Mmh.
Swann Harlow et Charles Berling sont nos invités jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Jeanne Adède, Falling Hearts.
A fallen hearts will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know no end, no heart it cannot mend, no skin it cannot feel, no arms it cannot still. You're not me, I'm not you. Tell me, should I?
Qu'est-ce qu'on est bien sur France Inter avec Jeanne Adède.
Jeanne Adède avec Falling Hearts. Et aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 12h30 avec Charles Berling et Swann Harlow pour le film Exfiltré qui sort mercredi prochain, 6 mars.
On enchaîne avec la bande originale de votre vie, messieurs. On va mettre en musique
On a choisi une date.
Parce qu'on a beaucoup parlé du film et on a l'intention de continuer à en parler.
Et on a choisi 1981.
Qu'écoutiez-vous,
Charles Berling.
C'est nous des
Galana. Ah, Marshall.
Ah, enfin une bande son correcte.
De quoi s'agit-il, Charles Berling?
C'est Jacques Dutronc, et Gainsbourg d'ailleurs, non? C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que bon, mon père était médecin dans la marine, alors c'est nous les gars de la narine, c'est un pied de nez. Enfin, j'ai trouvé cet album de Dutronc était extraordinaire. Ouais.
On est en 81 et vous interprétez le D-Book. En fait, vous êtes à l'INSAS et ça se passe pas complètement bien, en fait, l'INSAS. Sur la fin, en tout cas.
Il y a eu plusieurs périodes, oui, tout à fait.
La c'est dernière...
Quoi, l'INSAS non, c'est une école de théâtre et de cinéma, d'ailleurs. Mais non, mais je suis ravi, moi, d'avoir fait l'INSAS. Mais disons qu'il y a eu des périodes où j'étais... j'étais pas bien du tout dans ma peau, quoi. Ça allait pas du tout.
Vous êtes un peu déçu, vous trouviez ça très
mais
scolaire.
Mais là, le D-Book, en fait, c'était le D-Book de Chalamansky, qui est une pièce extraordinaire de un Roméo et Juliette du répertoire yiddish du début du XXe siècle. Magnifique pièce yiddish. Et que j'ai eu la chance de jouer avec mise en scène par Moshe Leiser. Et en fait, c'est parce qu'il voulait pas me laisser aller jouer dans cette pièce. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je leur ai dit, alors je m'en vais de l'école. Comme ça, je vais faire la pièce.
Comme ça, je fais la pièce.
Et finalement, c'est votre première fois sur scène, premier cachet. C'est avec cette pièce-là. C'était à Bruxelles.
Oui.
Et vous racontiez que vous étiez payé.
Chapelle des Brigitines.
Vous étiez payé en liquide.
Ouais, ça, c'était très drôle parce qu'on était tous. On était tous en chassid, comme ça, avec les pailles, et puis on était...
On faisait comme une communauté juive yiddish, quoi. Mmh. Et puis le jour de paye, comme les loges n'étaient pas sûres.
Parano, tout le monde, qu'on vous pique le fric.
On nous avait filé du blé en liquide. Alors on mettait tout ça dans les chaussettes. Et moi, j'avais cette image de tous les racines comme ça en train de. Bon, c'est un peu un cliché débile, mais c'était très drôle.
Et comment vous vous retrouvez ensuite dans la troupe des Mirabelles? Parce que c'est l'année d'après, ouais. C'est une troupe de travestis.
Bah parce que, c'est les Mirabelles, c'était une des travestis, tout à fait. Ah ben moi j'ai tout fait. Hein. Mais extraordinaire.
Comment vous vous
retrouvez là ? Et il m'avait proposé une comédie musicale. J'avais lu le script, enfin la pièce, puis j'avais dit oh non, je comprends rien ce que vous avez écrit, je vais pas faire ça. Et puis, un mois plus tard, ils me disent, on a vraiment trouvé personne, t'es sûr que tu veux pas le faire? Et puis, ils les trouvaient tellement sympathiques, parce que comme quand on refuse à quelqu'un, en général, après, ils vous détestent et tout, puis ils m'avaient dit, bon, bah, on te comprend, ça fait rien et tout. Puis après, on avait fait cette comédie musicale, il y avait Michel Godet aussi qui nous avait rejoint. C'était le plus grand four que j'ai jamais connu au théâtre, c'était extraordinaire. Heureusement, j'avais un maquillage blanc, mais j'étais rouge de honte parce que, à la première, c'était une pièce comique et personne ne riait. La salle s'est vidée au bout de trois quarts d'heure. C'est au Festival d'Avignon. J'ai un grand souvenir de ça.
Cours d'honneur, quand même. Cours d'honneur en plus. Au Festival d'Avignon, l'année d'après.
L'année d'après, oui, j'étais.
Quand même.
Ah oui, comme quoi.
Mais
j'arrête pas dans ma carrière d'avoir.
Swann Arlot.
Vous avez gardé un petit côté Mirabelle, quand même.
Ah bah tant mieux.
Mais surtout aujourd'hui, cette petite jupe vous va très bien.
À côté de ces artistes.
Ouais. Et vous, Swann Arlot, à la même époque, vous écoutiez.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream.
Enfin, vous écoutiez. Voilà, c'est ce qu'on écoutait à la maison.
Oui.
C'est l'année de votre naissance, 81. Swann Arlot.
C'est ma naissance, ouais. mais j'ai pensé à cette chanson parce que quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était pour moi, quoi. It's wonderful, it's wonderful. Et vraiment, j'étais vraiment persuadé, quoi, comme un enfant qui dit c'est quand même super comme idée d'avoir écrit une chanson pour moi. Et du coup, ça faisait rire ma mère qui la mettait souvent à la maison.
On vous définit souvent dans les articles de presse, Swann Arlot, comme un enfant de la balle, comme un enfant qui vient d'une famille de professionnels du spectacle. Dans les noms qui sont cités, on parle de Jean Carmé, de Max Vial, de Tatiana Vial, votre mère, de Rodolphe Maurice Arlot, une vraie famille autour du spectacle, du cinéma, comédien. Votre père était chef décorateur.
Il l'est toujours.
Il est toujours. Votre mère est directrice de casting et elle écrit des textes aussi. Vous jouez ensemble, vous travaillez ensemble même, ça
ouais.
vous arrive.
Ouais.
Comment est-ce que finalement c'était directement obligé de devenir un comédien? Il n'y avait pas d'autre issue? Il y avait d'autres aspirations enfant?
Ah
ou
oui,
pas
oui, non, c'est au contraire, c'était pas du tout une idée.
Ouais.
Je me suis jamais posé cette question-là. J'ai jamais voulu faire ce métier. Évidemment, quand on vient d'une famille qui connaît le cinéma, évidemment, tout le monde a envie qu'on fasse autre chose. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et moi, ma mère m'a toujours dit surtout ne choisis jamais ce métier. Si le métier te choisit, tant mieux. Voilà, ma mère a été comédienne quand elle avait 20 ans et puis elle a arrêté parce que ça marchait pas.
Mm-hmm.
C'est quand même un métier où il faut avoir la chance d'avoir du travail et ça ne correspond pas au talent ni à l'investissement qu'on y met,
ouais.
puisqu'on en voit des gens extrêmement talentueux qui travaillent pas beaucoup.
Et vous
avez l'inverse.
Et vous avez la sensation que ça s'est bien déroulé, ça s'est passé vite plutôt, ou assez tardivement? Quel regard vous portez justement sur vous, votre ascension en tant que comédien par rapport à justement la carrière de votre mère dont vous parliez?
Moi ça s'est fait sur le temps. J'ai l'impression d'avoir gravi les échelons comme ça tranquillement. Donc on dit ça avec du recul.
Oui.
Avec du recul, j'irais bien voir ce jeune garçon que j'étais en lui disant t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Ça va aller.
Tranquille.
Oui, non, je suis content que ces choses-là m'arrivent maintenant plutôt qu'il y a 10 ans.
Oui.
Et de toute façon, il y a 10 ans, j'avais pas décidé vraiment de faire ce métier. Donc je l'ai décidé, je le faisais déjà en fait.
D'accord, ouais, ensuite vous êtes passé par les Arts Déco,
oui.
on aura j'espère l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Maintenant vous allez revenir dans la bande originale,
bah demain,
vous allez devenir un habitué. Demain c'est samedi, c'est plus compliqué.
Un acteur à succès, vous allez revenir.
Mais en tout cas voilà, vous êtes tous les deux à l'affiche d'Exfiltré, Swann Arlot et Charles Berling, avec un super casting, Finnegan Oldfield, Jiska Kalvanda, j'ai pas encore cité le nom de tout le monde, mais on accueille Mathieu Delahousse. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à l'Obs, vous avez avez sorti en janvier aux éditions Fayard, La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. On vous fait venir justement pour avoir votre regard sur ce film Exfiltré. C'est une histoire un peu comme les autres, l'histoire d'Exfiltré par rapport à l'actualité et à tout ce qu'on entend dans les journaux et qu'on voit.
Moi, j'ai eu la chance de voir ce film et c'est effectivement un long métrage où on ressent la bascule que moi j'ai pu ressentir en écrivant ce livre, en passant quasiment 2 ans, face à des djihadistes qui étaient jugés. Il y a une dimension terrifiante dans ces histoires, mais il y a une dimension à chaque fois éminemment romanesque. Alors, on la retrouve évidemment dans le film, mais moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que dans mon travail de chroniqueur judiciaire, je suis amené à raconter des dossiers judiciaires dans leur brutalité. Dans ce livre, on voit de belles histoires et c'est dit sans cynisme. Il y a notamment de belles histoires d'amour. L'une des premières que je raconte, peut-être ça fera-t-elle l'objet d'un scénario un jour, mais c'est une jeune femme qui était guide de haute montagne en Savoie, qui était amoureuse d'un radicalisé. Le radicalisé en question est parti en Syrie. Elle est restée en Savoie en passant tous les jours et à chaque fois qu'elle faisait sa pause de midi, rivée à son téléphone, à Skype pour parler avec lui. Et elle a une amourette de bureau. L'amourette de bureau fait que le garçon qui était resté lui aussi en Savoie, ben finalement, il s'est radicalisé lui aussi pour lui plaire. Il a voulu partir aussi en Syrie. Et la réalité du djihadisme à la française aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a un aspect très romantique, un aspect très romanesque.
Alors quel est le profil de ces Français, de ces Françaises qui partent vers le djihad ? Est-ce que c'est plus de femmes ou pas ?
Alors il y a relativement peu de femmes, mais il y en a malgré tout un tiers. Il y a un tiers de femmes et il y a un tiers de converties. On parlait de casser les clichés, ça en fait partie. Et l'autre réalité qui m'a frappé en regardant et en vous écoutant tout à l'heure, c'est malgré tout la brutalité qui existe, notamment sur ce sort des femmes. Il y en a peu qui sont revenus, effectivement. Il y a le cas de cette exfiltrée. Il y a une femme qui est revenue aussi parce que ses enfants avaient besoin de soins médicaux urgents. Mais l'autre versant, et c'est l'aspect beaucoup plus douloureux, j'ai un peu sursauté tout à l'heure en entendant cette expression d'enfant de cœur, parce que c'est vrai que quand on suit les dossiers terroristes, c'est toujours quelque chose de très très difficile par rapport à la finalité du terroriste qui parfois est hélas l'attentat. Et parmi ces femmes qui sont parties, certaines sont effectivement revenues, mais pour ce qu'on appelle les missionnées. Et ça a été le cas notamment de ces deux femmes qui, elles aussi, ont des vies qui ressemblent à des romans, qui sont revenus après être passés quelques semaines en Turquie, un petit peu en Syrie, et qui ont décidé un beau matin d'aller poser la 607 de leur père au pied de Notre-Dame avec des bouteilles de gaz à l'intérieur et qui sont jugés devant une cour d'assises à la rentrée. Et c'est aussi cette réalité-là. Mmh. Et en réalité, si on peut dire, l'instant de bascule, il nous interroge en permanence. C'est-à-dire qu'on a des individus sur lequel on ne peut pas effectivement avoir des clichés, ce n'est pas marqué terroriste sur leur front, il n'y a pas de profil type, puisque c'était votre question. Malgré tout, on sait leur nombre, à peu près, il y en avait 2300. Mais on sait aussi qu'il y a cette ligne de crête qui est terrifiante, c'est soit de revenir dans nos vies, reprendre un époux, reprendre un enfant, reprendre une vie qu'on peut qualifier de normale, ou en tout cas une vie ancrée dans des valeurs qui ne sont pas les valeurs mortifères de Daesh, et pour certaines d'entre elles, totalement manipulées par des Rachid Kassim, par des Omar Homsen.
C'est souvent
qui sont des
le cas, c'est-à-dire comme
place.
Faustine, qui ne savent pas vraiment
elles
pourquoi
elles
partent.
Quoi elles vont tomber.
Ouais.
Elles partent pour... C'est vrai que c'est terrifiant. Moi, j'ai entendu devant le tribunal correctionnel des femmes, notamment, parce que j'en ai vu deux et je les ai à l'esprit en vous parlant, qui disaient on était partis pour faire le bien. Mm-hmm. Et c'est totalement sincère. C'est totalement sincère. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on se rend compte ensuite qu'elles sont fichées par les DGSI comme des missionnées, parce qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'elles ont été repérées par des jeunes gens qui ont en général moins de 30 ans, qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, qui effectivement, mais tout comme le montre très bien le film aussi, ont cette espèce de bande de quartier qui s'est reconstituée sur place.
Romainville, là, c'est le cas.
Et le but final, ce n'est pas de faire le bien. Oui. Le but final, c'est de faire le mal. Et c'est vrai que c'est toute cette ambiguïté de ce terrorisme qui nous a tous transpercés, traumatisés, tout ce que vous voulez, et malgré tout, de ce terrorisme qui est enquisté dans notre société et qu'il faut essayer de ressortir par des éléments. On parle parfois de désistance, qui est un terme un peu compliqué, mais effectivement, la désistance, c'est de revenir dans sa famille, comme vous le décriviez
alors
tout à l'heure.
Justement, se pose la question du retour. Se pose la question du retour dans la société, au niveau de la classe politique. On se dirige vers quoi? Qu'est-ce qui est préconisé? Quelles sont les grandes tendances? Comment font les autres pays aussi? Parce que il n'y a pas que la France qui est touchée par ce phénomène.
La France a un débat depuis plusieurs semaines sur ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et ces enfants qui sont sur place. Il faut dire que l'opinion publique très clairement n'en veut pas de ces gens-là. On ne veut pas d'avoir d'exfiltrés, on ne veut pas avoir de retour officiel, personne n'en veut. La France est en train de réfléchir à ça. Les autres pays sont d'une approche beaucoup plus violente que la nôtre. Les Anglais les refusent totalement. Ouais. Les Allemands viennent de dire qu'ils n'en voudraient pas. La vraie question
est de
créer des apatrides.
Certains, y compris en France, on voulait créer des apatrides, parce que c'était tout le débat sur la déchéance de nationalité. Ouais. Mais moi, je trouve intéressant, en venant en parler ici, de s'accrocher au personnage de cette femme. C'est effectivement cette femme, qu'est-ce qu'on en fait si on décide, si elle était encore aujourd'hui sur place, de la laisser sur le terrain? Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la mort, effectivement, puisque les conditions de vie là-bas sont pas d'une facilité déconcertante. Mais par ailleurs, est-ce qu'on la ramène dans notre cadre officiel avec effectivement une peine de prison ou peut-être une peine de contrôle judiciaire, mais aussi un suivi, c'est-à-dire que la France, dans sa globalité, la France, c'est pas que la justice, c'est la sécurité, mais c'est aussi les services sociaux, c'est l'éducation, c'est la famille. On saura où elle est, on saura ce qu'elle fait, plutôt que d'avoir des gens partir. Et parmi les gens qui aujourd'hui sont partis, soit en Irak, soit dans la zone irako-syrienne chez les Kurdes, il y a des itinéraires qui sont très inquiétants parce que personne ne sait où ils sont et personne ne sait autour de quelle personne ils se trouvent. Et on sait à quel point, et ça encore une fois, le scénario le montre, avec une précision parfois diabolique, parce qu'on sent que c'est un fil qui parfois peut se tirer sur des éléments très fins, peut tirer quelqu'un qui était là par hasard, pour le bien, par l'illusion, par perte de repère, vers le véritable terrorisme. Et c'est ça qu'il faut déjà éviter aujourd'hui.
Et qu'en est-il des enfants? Parce que la question aussi se pose, il y a la responsabilité de l'adulte, et puis il y a les enfants qui se retrouvent embarqués, comme ça.
L'enfant qu'on voit dans le film, il est très jeune, je pense qu'il a moins de 5 ans, 5 ans tout juste. Ceux-là sont récupérés, ceux-là sont fournis. Les grands-parents, moi dans les dossiers que j'ai vus, et que je raconte un peu dans la chambre des coupables, il y a les grands-parents qui jouent des rôles très importants avec, malgré tout, et c'est souvent très touchant, ce trouble de génération qui apparaît aussi. C'est-à-dire que les grands-parents ont des autres repères, n'ont pas compris même physiquement quelles étaient les motivations du départ. Il y a des jeunes adolescents qui racontent qu'ils sont partis parce qu'ils ont vu sur Snapchat que la Syrie, c'était génial. Parce qu'en fait, la réalité de ce djihadisme, il y a ça aussi, c'est qu'on n'écoute pas la réalité qui est décrite par France Inter, on écoute la réalité du Snap en disant « Regardez la Syrie, c'est extraordinaire ».
Et même d'ailleurs, si elle vient de France Inter, elle est considérée comme fausse.
Absolument, elle est considérée comme une fake news. Il y a tout un élément de fake news véhiculé par Daesh à l'époque, alors moins à l'époque du film, puisqu'effectivement on est vers 2011-2012. Mais effectivement, cette réalité-là, elle échappe aux grands-parents qui vont récupérer les enfants. Et moi, je raconte dans mon livre une scène qui est encore une fois, même quand j'en parle aujourd'hui, me transperce en termes d'émotion et en termes de repères. C'est que une grand-mère qui était quelqu'un qui vivait dans la région parisienne, qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale plutôt du côté des opprimés que d'ailleurs, se retrouve avec un petit-fils qui a eu cette fonction hallucinante quand il était à l'État islamique. Il a été fossoyeur parce que ce garçon était parti, c'était un jeune converti, il était parti la fleur au fusil, comme on dit, avec la certitude de pouvoir combattre pour le bien. Et en réalité, quand il a été sur place, les gars de l'État islamique, je les appelle volontairement comme ça, qui ne sont pas les gars les plus faciles du monde, lui avaient dit « Toi, t'es pas assez bon pour le combat, mais en revanche, tu vas enterrer... »
Donc
il avait été fossoyeur, il avait enterré 120 corps. On peut imaginer ce que ça peut faire sur un jeune adolescent. Et il était revenu, et c'est sa grand-mère qui l'a aidé à revenir dans la société. Oui. Sa grand-mère avait l'image de la guerre dans la tête. Lui avait son image de fossoyeur en Syrie. C'est des rencontres de générations qui, effectivement, sont très romanesques, mais qui, effectivement, n'incitent pas à un optimisme forcené.
Mais on vous invite à lire La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français chez Fayard. Mathieu Delahousse, merci d'avoir été avec nous et d'avoir apporté votre témoignage.
Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour Daniel.
Alors Tanguy, vous allez nous parler de puberté précoce.
Oui, parce que ça y est, mon corps change. J'ai réalisé ça ce matin en me regardant dans le miroir. Mais ça fait 3 jours que je mange au resto, donc il est possible que j'ai juste pris un peu de bide. Par contre, de plus en plus de fillettes sont concernées par la puberté précoce. À 4 ans et demi, elles lisent déjà le magazine Elle. En cause, les perturbateurs endocriniens, Daniel.
On voit tout ça dans la deuxième partie de l'émission. On est ensemble jusqu'à 12h30. Nos invités sont Swan Harlow et Charles Berling pour Exfiltré, qui sort mercredi prochain, c'est-à-dire le 6 mars. À tout de suite. le retour de la bande originale avec Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Dans quelques minutes, Tanguy pour maltraiter l'info. Bien entendu, Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour. Bonjour à tous nos invités, Swann Arlot et Charles Berling dans la bande originale. Exfiltré en salle le 6 mars, ce premier long métrage d'Emmanuel Hamon qui vient plutôt du documentaire, qui est passé aussi par le cinéma, qui était l'assistant de Chéreau, mais qui a vraiment travaillé à de nombreuses reprises sur l'engagement de l'État, le rapport des citoyens par rapport à l'État dans les travaux précédents, qui là s'attelle à ce sujet exfiltré qui nous concerne tous, puisqu'on est quasiment à une poignée de main chacun d'entre nous, d'histoires comme ça complètement sidérantes. Un bonjour, un beau matin, et c'est ce qui se passe dans ce film. Une femme, une épouse, mère d'un enfant de 5 ans, décide de partir à l'étranger, cachant la destination de son voyage. Elle va retrouver les rangs de Daesh. Elle n'y va pas vraiment en terre inconnue. Elle connaît des gens qui font partie de son enfance, de son environnement naturel. Et on est face à la sidération d'un père de famille qui voit son enfant partir et sa femme aussi. Et on a toute une solidarité aussi qui s'instaure autour de l'histoire du personnage que vous incarnez, Swann Arlot, solidarité exercée par le chirurgien avec lequel vous travaillez, vous, Charles Berling, mais aussi son fils, sur place, sur le terrain, qui a des connexions aussi avec des activistes syriens, de jeunes syriens qui cherchent aussi à faire en sorte que leur pays redevienne ce qu'il était avant. Voilà le sujet de ce très très beau film que je vous invite chaleureusement à voir, parce que à l'issue d'un film comme ça, on peut pas mal discuter, se poser des questions, notamment sur la question des retours de ces ressortissants français ou pas sur le territoire français. Qu'en fait-on ? Est-ce que ce film, Charles Berling, a été évident à monter compte tenu du sujet ?
Non, je voulais rebondir sur ce que disait
Mathieu Delahousse.
Parce qu'il dit c'est un sujet qui encombre. Enfin, les Français ont du mal à regarder en face. Mm-hmm. Eh bien, c'est un peu vrai pour une production. Je salue Gilles Legrand et Frédéric Brion, qui sont les producteurs et les distributeurs du film, qui ont été extrêmement tenaces pour permettre à ce film d'exister. Ça a été très difficile à monter, et je pense que c'est une position un peu autruchienne.
Autruche.
Faire l'autruche. Et je crois que c'est pas. Et je vous félicite de nous accueillir aujourd'hui dans cette émission pour défendre ce film.
J'ai eu du mal à les convaincre.
Non, mais parce qu'on disait au début d'émission, ouais, c'est toujours mieux de regarder les choses en face, mm-hmm, que d'attendre, que de se laisser aller à des fantasmes et des idées reçues, et d'attendre après que ça vous tombe. Sur la tête.
Et la force de cette fiction, c'est aussi que ce ne sont pas simplement.
Un problème de société, ouais, c'est un problème fondamental. On en parlait tout à l'heure. Il m'a repris sur l'histoire d'Enfant de cœur. Moi, je voulais juste dire que l'idéalisme qu'on a tous connu à tout âge, eh bien, peut amener à des erreurs fondamentales, et qu'il y a des jeunes Français qui sont victimes de cette faiblesse-là, de fanatisme, d'idéalisme.
Et là, l'avantage de cette fiction, c'est que ces personnages sont incarnés. C'est pas simplement des noms dans un journal. C'est l'histoire de cette femme incarnée par Jiska Kalvanda, dont je salue l'interprétation. On a aussi Kassem Alkoja. J'ai pas parlé du casting d'Ethan Palisson, de Sophie Cattel, d'Adrino Piozzo, de Driss Ramdi, de Mathieu Lourdel, d'Aurélia Petit, de Finnegan Oldfield bien entendu, et de vous deux, Swann Arlot et Charles Berling. Tout d'un coup, voilà, ces histoires prennent les traits de personnes, de personnages, et on comprend mieux comment on peut être conduit sans être le dernier des idiots dans des histoires semblables à celle-ci, comme vous l'avez dit, une forme d'idéalisme, une naïveté,
certes coupable, mais,
oui,
mais
absolument.
Enfin, et cette position autruchienne dont vous parliez, on la retrouve avec votre personnage qui se confronte à la DGSI, les diplomates qui ne veulent pas écouter, qui disent qu'ils sont impuissants totalement.
Oui, parce que parfois une certaine bourgeoisie française se croit toute puissante, mais vous savez, la fragilité est de ce monde.
Et la fragilité, on ne peut pas mieux l'annoncer, c'est celle de Tanguy Pastureau qui pourtant va nous enchanter. Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez nous parler de la puberté et que la puberté est un moment bien difficile.
Oui, Daniel, et j'imagine la stupéfaction qui fut la vôtre en 61. Oui. Lorsque le garçon adorable que vous étiez, jeune boy scout habillé d'une chemisette et rien d'autre sur les conseils du prêtre chargé du groupe, qui ne vous demandait pas de l'appeler mon père mais ma grosse loute, est devenu ce mec velu au goût de musc, incarnation d'une virilité un poil excessive. La puberté, c'est un moment difficile, et quand ça arrivera à Gérald Darmanin, une fois qu'il aura pris de l'âge, il fera moins son Mickey. Parce que d'un coup, on passe du corps de Cyril Ferraud à celui de Philippe Etchebest, avec dans le corps les hormones qui sculbutent, ce qui entraîne des éruptions cutanées proches de celles du Vésuve en 79. Pas 1979, là c'était juste c'est Jérôme qui s'était percé un bouton. Dalida qui était en face s'était pris le pu dans l'œil, ce qui avait provoqué chez elle ce léger strabisme irrémédiable. 79, tout court. Mais bref, il faut en passer par là. Et pour les parents, dire adieu à l'enfant qu'on a tant aimé avec son petit nez, ses petits yeux, et appréhender l'ado qu'il est devenu avec son grand nez tordu, ses dents défoncées par le double gum et ses yeux rougis par le shit. C'est pour ça que les gens prennent des hamsters, parce qu'ils vieillissent mieux que les humains. Si Jordi, dur dur d'être un bébé, avait été un hamster, là il serait toujours à la télé en train de tourner dans une roue, ce qui après tout n'est pas plus con que le tirage de l'Euromillion. Hein, pardon de le dire, j'adore et Jean-Pierre Foucault et l'argent. Enfin, c'est une réalité. Donc, avant, la puberté survenait vers 12-13 ans. Les fillettes se mettaient à hurler. « Maman, je saigne, je dois m'être blessée. Comment j'ai pu me blesser là? Si encore j'étais tombée sur un barbelé en tentant de passer en Europe, je comprendrais. Mais nous ne sommes pas des migrants, maman. » Et la mère répondait « Il faut qu'on parle. Assieds-toi. » Quand moi, ça m'est arrivé en 89, mes parents ont pris le temps de m'écouter. Ils m'ont conseillé une marque de serviettes, ce qui n'a servi à rien, puisqu'en fait, je m'étais vraiment blessée sur un barbelé. J'étais en Bretagne, voulu caresser une vache dans un champ. J'ai glissé. Mais là, en quelques années, l'âge de la puberté a baissé, selon une étude de l'université de Berkeley en Californie qui pond 10 études la semaine. Autant la fac de Sergi Pontoise, il ne branle rien, autant à Berkeley, ça bûche. Et selon ces médecins, l'âge de l'apparition des seins chez les filles, ce qui est super parce que ça ouvre la voie aux émissions de télé-réalité, était en 80 de 12 ans, en 97 de 10 ans, et là on a de plus en plus de cas de puberté précoce, c'est-à-dire qu'à 8 ans, des gamines ont le corps de Dreyfleurot. Hein, les pervers à la sortie de l'école ne leur offre pas de bonbons, mais des clopes, ce qui est terrible pour leur santé. Alors sont mis en cause les perturbateurs endocriniens que contiennent shampoings, gel douche, cosmétiques. Donc à part pour Michel Houellebecq qui se lave peu, sa puberté est d'ailleurs survenue à l'âge de 42 ans, hein, mais tous les gosses sont concernés. Des expériences ont été menées sur les rats, on les a exposés à des shampoings. Les mâles ont eu par contre des retards pubertaires. Ils restaient bloqués en enfance. Toute la journée, ils se scotchaient devant le DVD du film Ratatouille.
Donc selon les études, Tanguy, ce sont surtout les filles qui sont concernées par cette puberté avancée.
Oui, alors déjà que nous les mecs, on n'était pas en avance, pige, on se traîne en basket, tout ça pour se distinguer d'Edouard Balladur, qui dans un monde idéal serait le mâle alpha que tout le monde cherche à copier. Mais depuis Christina Cordula a le pouvoir médiatique, elle a décidé toute seule que les chèches allaient mieux sur une silhouette en Y. Bon, si en plus les filles à 8 ans deviennent des femmes, mais toute relation hétérosexuelle est vouée à l'échec. Les gens de la Manif pour tous vont se tailler les veines avec le serre-tête de Mamie Françoise. Un chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé, dit qu'il y a plus de 1000 substances chimiques dans notre environnement immédiat pouvant provoquer la puberté précoce. Donc le temps de trouver laquelle fait ça, les bébés à la naissance vont sortir de l'utérus avec le physique qu'ils devraient avoir à 27 ans. On leur coupera le cordon, on leur filera un attaché-case et on leur dira « Allez, va bosser, pour la défense tu prends la ligne 1, il y a 3 stations multipliées par 5 incidents voyageurs, t'y es dans 16h20. » Du coup, on va pouvoir supprimer l'école et remercier Jean-Michel Blanquer, à qui on retirera un œil à l'aide d'un lanceur de balles de défense, et il pourrait jouer dans le film Les Mignons numéro 2, une fois repeint en jaune. Un espoir quand même.
C'est moche.
Un espoir
c'est
quand
moche.
Même.
C'est non.
De savoir ce qui provoque ces pubertés précoces nombreuses. Parce que moi, mon fils a 4 ans, m'a battu hier au bras de fer. Et il m'a dit, t'es nul, papa. Bon, alors, une étude est en cours au CHU de Montpellier. Depuis un an, ils suivent les familles de 100 filles atteintes de puberté précoce, dont celle de Nicole Belloubet, qui en réalité a seulement 7 ans et demi. Et on devrait savoir d'où vient le problème. Alors, les types qui bossent sur l'étude disent déjà que pour la moitié, ce serait dû à l'habitat pollué. C'est-à-dire qu'entre les meubles assemblés à la colle chimique, les parfums de synthèse, les colorants du tissu du canapé et la teinture de la tati des gosses, nos apparts sont des machines à faire grossir les seins et les testicules. Vous y entrez, vous êtes loudoyon à l'âge de 9 ans, le temps de bouffer une danette et repartir, vous êtes Nabila après la pause de 2 jantaliages par Noroto. Bref, nous polluons le monde et ce sont nos petits toux qui trinquent. Nous les adultes, nous sommes de belles raclures. Ça donne envie de se rouler en position fœtale, comme on le fait à 6 mois, et pleurer. 6 mois, vous savez, c'est cet âge où la barbe commence à pousser poussé à un petit neveu à 3 ans, c'est un vrai hipster.
Tanguy Pastureau. France Inter.
La bande originale. Bravo Tanguy Pastureau, Swann Arlo, Charles Berling pour Exfiltré en salle le 6 mars. J'ai évoqué tout à l'heure le casting, le comédien qui incarne ce Syrien Adnan, qui est joué par Kassen Alkoja. Est-ce que vous avez pu discuter avec lui? Parce que moi j'ai découvert que c'était un jeune homme qui venait lui-même de la région de Raqqa, qui est arrivé en France par bateau il y a 2 ans.
Il est arrivé en 2015. Mm-hmm. Et oui, alors après, lui, il n'a pas exactement l'histoire du personnage, sûr. Mais en tout cas, il a participé à la Révolution, il a eu des ennuis, et à un moment, ils ont décidé de partir. Donc, c'est une histoire dont il est évidemment proche, et c'est intéressant de discuter avec lui, parce que d'un coup, on a un point de vue qu'en fait, on n'a pas, hein, parce que nous, notre manière d'aborder ce sujet-là, elle est absolument française.
Les migrants, c'est-à-dire, voilà, c'est indéfini, c'est une foule qui vient profiter d'un pays, alors que là, vous avez vraiment eu un interlocuteur face à vous pour raconter, en fait, quelle était son histoire. Pourquoi vous,
bien sûr,
vous savez
mais,
pourquoi il a quitté
Mais c'est toujours la même chose avec les migrants, c'est-à-dire que... Mmh. Et puis, je trouve qu'on entretient beaucoup des choses floues ou approximatives, et sur ces sujets-là, c'est terrible, parce que ça fout des angoisses aux gens, ça leur fait peur. Nous, je me souviens, au Liberté à Toulon, le théâtre que je co-dirige avec Pascal Beuglin, on avait accueilli des migrants. Tout d'un coup, on a des gens en face. Au début, ils sont très effrayés, n'est-ce pas? Mmh. Et avant de prendre la parole, ça a pris du temps. Mais une fois qu'ils apprennent, c'est-à-dire, on voit qu'ils sont vraiment nos alter ego. Et c'est ça qu'il faut mesurer.
Et c'est ce qu'on voit dans le film avec l'illustration de ces trois jeunes. C'est ça, c'est cette figure du migrant qui est jamais montrée de façon aussi positive, qui est là, qui vient aider.
C'est pareil avec cet acteur. Tout d'un coup, nous, on était avec un acteur, un jeune Syrien qui est arrivé en 2015, il y a une faculté d'adaptation énorme, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai, ils sont passés par des choses tellement difficiles qu'ils vont s'adapter, mais ils sont le contraire du négativisme qu'on voudrait décrire.
Absolument.
De la part de
ces
migrants.
Ce film, Charles Berling, permet de montrer en effet une figure du migrant qui n'est pas celle que perçoit souvent l'opinion publique, de voir aussi la figure d'un jeune homme d'une classe plutôt aisée qui va s'engager aussi, incarné par Finnegan Oldfield, dont on se doute aussi qu'il a des connexions qui vont un peu plus au-delà que l'humanitaire. En tout cas, il semble être très bien inséré dans les réseaux de décision. Donc ça fait partie aussi de cet aspect thriller aussi un peu politique du film. Ça, on l'a peut-être pas assez dit depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a beaucoup de suspense, qu'on ne sait vraiment pas comment les choses vont pouvoir être réglées, et à chaque fois on va de rebondissement en rebondissement. Donc vraiment bravo à nouveau pour les Exfiltrés.
Vous savez, c'est vrai, tout à l'heure Swann y parlait de fiction et réalité. C'est vrai que quand la fiction s'inspire comme ça de la réalité dépasse vraiment la fiction. C'est pour ça que le film est passionnant, absolument. C'est-à-dire, c'est dingue.
Et je vais présenter quelqu'un qui dépasse aussi la fiction, et c'est une triste réalité parfois. Bienvenue, Frédéric Sigrist.
Ah, ah là 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 là. J'adore être lancé par vous, Daniel. Tellement fort contre le mur. Vous vous rendez compte, en 2017, les banques ont récolté 6,7 milliards d'euros en agio. En agio. Ce qui signifie qu'elles ont pris 6,7 milliards d'euros à des gens qui n'avaient pas d'argent sur leur compte. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne prête qu'aux riches, mais les banques deviennent riches grâce aux pauvres. Et si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que mon compte est très 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 souvent dans le rouge. Mon compte est dans le même état que Gérard Larcher après avoir monté 4 étages sans ascenseur. Tu regardes mes relevés de compte, t'as l'impression que c'est un prof de maths sup qui a corrigé les copies d'une classe de littéraire option théâtre. C'est rouge partout. Oui, je suis souvent à découvert. Et d'ailleurs, il est bizarre ce terme, à découvert. Le vocabulaire banquier est extrêmement martial. Sur le front, quand t'es à découvert, c'est le moment où tu peux te prendre une balle, tu vois. En fait, mon compte, c'est la maman de Bambi. Il est très vulnérable. Et c'est pour ça qu'on parle de compte épargne. Les comptes épargne, en fait, c'est pour recueillir tous ceux qui ont réussi à échapper au massacre. Ils sont pas pour autant sauvés. Ils sont épargnés. C'est-à-dire que le fisc que t'avais dans son viseur et dans sa grande mansuétude, il s'est dit « Non, laisse-les partir. On les aura d'une autre manière. » Et c'est intéressant, le vocabulaire. Ça en dit tellement long sur nous. Prenez le travail, par exemple. Le travail, c'est la santé, tu parles. Travail, ça vient du latin tripalium, qui était un engin de torture à 3 pieux. Tu sens que le mec qui a inventé le mot, c'était quelqu'un qui était très content d'aller bosser. Et il faut gagner sa vie. C'est une aberration. Tes parents passent toute ton enfance à te dire qu'ils t'ont donné la vie, et à l'âge adulte, il y a un putain de banquier qui vient t'expliquer qu'il faut que tu la gagnes. Bah, je suis pas d'accord, hein. Donner ses données, reprendre ses volets. On parle toujours des fins de mois difficiles, mais moi je vois mes prélèvements, ils passent le 5 du mois. Bah, c'est pas la fin, hein. On est quand même plus proche du début. Comme quoi, techniquement, dans mon mois et dans le mois de beaucoup de Français, il y a beaucoup plus de fins qui arrivent dès le début. Dans une interview dimanche dernier, Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, la Cohésion des Territoires, ça veut dire que son job, c'est de s'assurer que s'il n'y a pas d'argent dans les Hauts-de-France, il faut pas qu'il y en ait non plus dans les autres régions. Et ben donc, elle a lancé l'idée en plein débat national que tous les Français soient soumis à l'impôt sur le revenu, même si c'est pour un euro symbolique. Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est quoi de l'argent symbolique? Moi, je connaissais l'argent qui paie, pas l'argent symbolique. Et symbolique, dans ce contexte, ça veut dire que ça annule tout ce qui précède. Un euro symbolique, c'est donc un euro qui n'existe pas. C'est rien, donne-le. Et c'est marrant parce qu'un euro est toujours symbolique pour ceux qui en ont, astronomique pour ceux qui n'en ont pas. Alors du coup, est-ce que ça peut s'appliquer à autre chose, le terme symbolique qui annule tout à vendre? Une sodomie symbolique? Est-ce que c'est une sodomie qu'on ne sentira pas passer? Elle a peut-être lieu à l'instant où je vous parle.
Ouais.
Hein? Alors vous êtes peut-être choqués par ce que je dis, mais vous inquiétez pas, c'est de la vulgarité. C'est de la vulgarité symbolique. Ouais. Hein? Un stagiaire, est-ce que c'est un employé très bien payé, symboliquement parlant? La baisse des APL, c'était rien, c'était 5 fois 1 euro symbolique. Si ça marche dans ce sens-là, ça doit pouvoir marcher dans l'autre sens. Je vais voir si je peux payer mes impôts en euros symboliques cette année. C'est une nouvelle monnaie, monsieur le fisc. Bien vu, c'est une nouvelle monnaie. D'ailleurs, ça fait des années qu'on tombe un peu trop facilement sur le dos des entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale. Alors qu'en fait, elles paient sûrement leurs impôts en euros symboliques depuis des années et on le savait pas. Et on peut étendre le concept. Benalla va être condamné à de la prison symbolique. Ah, je pense que c'est ce que Macron a dit au sans-abri qu'il a croisé pendant sa maraude. Mais... pourquoi, mon bon monsieur, vous ne vous construisez pas une maison symbolique? Et parfois, quand je vois tout ce qu'on nous balance, j'ai un peu l'impression que le gouvernement nous prend pour des cons symboliques.
Bravo.
Merci, Frédéric.
France Inter. La bande originale.
Bientôt sur scène, Fred Sigrist, j'espère, pour venir t'applaudir.
Absolument.
À Toulouse. Bah justement, parlons un peu de votre actualité dans les semaines qui viennent. Charles Berling, vous êtes en tournée avec Hard, la pièce de Yasmina Reza, avec toujours vos deux acolytes préférés, Jean-Pierre Darroussin
et Alain Fromager.
Oui.
Ah oui, tout à fait. On se déplace beaucoup en France. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une pièce absolument magique. Donc.
Et vous serez à l'affiche le 10 avril prochain de Blanche comme neige, un film d'Anne Fontaine.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Tout à fait.
Oui. Il y a autre chose en préparation.
J'ai tourné un beau film avec Nicolas Boukrieff cet automne et j'aime beaucoup le.
Sorti bientôt.
Un scénario de Pierre Lemaitre, avec Toretton, Sandrine Bonner et d'autres merveilleux acteurs.
Que du bon, absolument. Ouais.
Et puis j'ai toujours mon livre que je suis un homme sans identité là chez Le Passeur que j'aime beaucoup que j'ai écrit la nuit comme ça pour raconter la diffractation dans l'univers d'un acteur.
Vous Swann Arlo, vous êtes à l'affiche en ce moment de Grâce à Dieu, le film de François Ozon qu'on a reçu ici en début de semaine dernière. On a beaucoup aimé le film, vraiment bravo à nouveau.
Qui Grâce à Dieu est sorti à la date prévue.
Et oui, qui est Grâce à Dieu et n'a pas été empêché de sortir. Ouais, voilà, c'est ça. On vous retrouve aussi à l'affiche de Perdrix d'Erwan Leduc prochainement. Quelques mots peut-être sur ce film.
Alors c'est un film que j'ai tourné à l'automne dans les Vosges, je pense qu'il s'appellera pas Perdrix, mais en tout cas c'est le titre pour l'instant, mais ils vont choisir un autre titre, parce qu'après Petit Paysan, tout le monde va penser que je suis devenu un acteur agricole.
D'extérieur.
Ça c'est un film, c'est difficile de raconter, parce que c'est vraiment sur le ton, il y a un peu d'absurde, en même temps des choses très profondes sur la vie, les sentiments, mais tout ça avec un flegme... improbable. Donc c'est très très drôle. Voilà, avec Maud Viller, Fanny Ardant, Nicolas Maury, Alexandre Steiger et d'autres. Et voilà, je me suis beaucoup amusé à faire ce film.
C'est plutôt une comédie.
Les Vosges, formidable.
Comédie.
Comédie, mais comédie d'auteur.
D'accord. Donc encore un genre à part, absolument.
Voilà.
Et on vous retrouve aussi sur scène au théâtre.
On a un projet avec Tatiana Vial, ma mère accessoirement, une pièce d'Adèle Hakim qui s'appelle Exécuteur 14.
On va encore travailler ensemble avec.
Ah, vous serez réunis.
Voilà. Ah ouais, on arrive.
Et on va aller certainement en résidence chez
Monsieur
Berling.
Parce que je m'occupe beaucoup de ces deux théâtres, Liberté et Château-Vallon à Toulon,
Et c'est vrai que c'est un... Enfin, c'est une, un grand plaisir, une grande responsabilité que
De programmer ces lieux.
Oui, d'être responsable de ces institutions sur les territoires à l'heure des plateformes, de machin.
Faire venir le spectacle aux gens.
Exactement, d'avoir des lieux vivants comme ça, c'est merveilleux.
Et ce sera un seul en scène, Swan Arlo, c'est ça?
Ouais, Exécuteur 14 d'Adel Hakim, c'est un seul en scène, c'est un texte magnifique qu'il a écrit. Il a écrit il y a très longtemps, inspiré de la guerre du Liban, mais qui en fait a une résonance aujourd'hui incroyable. Et voilà, on ne sait pas encore quand ni où, mais en tout cas c'est en chemin. Et j'y tiens beaucoup, et je tiens beaucoup aussi à revenir au théâtre où j'ai assez peu joué. Mais je pense que c'est, enfin en tout cas pour ma part, c'est impossible de ne pas passer par le théâtre parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'essentiel.
C'est quoi, une forme de quête de légitimité aussi, ou de se rassurer, ou de continuer à travailler d'une autre façon, comment
vous percevez ? Non, c'est plus dans la quête de quoi que ce soit. C'est qu'en fait, le cinéma, quand même, on est arrêté toutes les 10 secondes. et que s'il y a un accident, si on se trompe et que c'est magique, bah, c'est très bien, c'est réglé, c'est dans la boîte. Alors que le théâtre, il me semble que c'est quelque chose plus sur un travail sur le long terme, plus un travail d'humilité. C'est-à-dire, si on a été extraordinaire un soir, bah, très bien, tu n'as plus qu'à recommencer demain. et en même temps, si on s'est complètement planté, bah, c'est pas grave, tu pourras te rattraper demain. Et voilà, j'ai envie de ce travail-là.
Transition toute trouvée, parce que nous aussi, il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Daniel, il est temps de présenter tes excuses.
Ah, bien sûr, je suis déjà désolé pour tous les réalisateurs qui avaient prévu de travailler avec Swan Arlo et qui ont découvert ce matin que le mot « travail » ne convenait pas vraiment à ce que faisait Swan Arlo pour préparer un film. Mais ça marche quand même, les gars. Pas de panique, messieurs les réalisateurs. Désolé pour Charles Berling, dont les livres ont été qualifiés de « texte » par Leïla et de « liste de courses » par Swan Arlo. En même temps, c'est vrai que sans pipe et sans moustache, manque de crédibilité, Charlito. Désolé pour nos auditeurs intégristes, donc fans de Nagui par définition, qui depuis les révélations du maréchal Ganache s'inquiètent de l'absence de leur idole. Alors je peux rien vous dire de précis, mais on cherche à l'exfiltrer d'un lieu de perdition où il sera en compagnie de Patrick Balkany et Dan Roumanoff. Je crois qu'il s'agit de la cave de Jean-Marc Morandini, mais je suis pas sûr à 100%. Et désolé enfin pour tous les Normands amoureux de l'humour que j'ai frustrés en ne donnant pas la date du passage de Tanguy Pastureau à Rouen. C'est le 26 juin. Voilà, c'est fait.
Merci Daniel, merci Swan Arlo, merci Charles Berling d'être venu nous présenter Exfiltré. Merci à tous les garçons autour de la table. Lundi, semaine de rediffusion avec au programme Stéphane Plaza, Riyad Satouf, Julie Gayet, Lolita Chama ou encore Dave et Thomas VDB.
Dimanche, moi je vous retrouve avec Aurore Auteuil et Marina Lorenzo dans Vous les femmes. Et tout de suite, on retrouve l'excellent Philippe Bertrand avec Carnet de campagne. Bonne journée, bon week-end et bonne semaine sur France Inter.